contraire de l'argent.
Tous les jours sur Europe 1.
Moins on en a, plus on est satisfait. Voltaire.
Historiquement vôtre.
Après tout, c'est tant mieux.
Et Van Gogh, c'est pas une famille d'artistes.
The successor to the kings and queens of history.
Là, Seigneur Colomb, c'est là précisément que nos opinions divergent.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous, Clémentine, Jean-Luc, David,
bonjour.
Bonjour.
Et celui qui est aussi avec nous aujourd'hui, notre guide culinaire vivant et même bon vivant, Olivier Pouls.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi pour la 501e fois sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter en compagnie de 6 personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque mais qui ont un point commun. Oui, aujourd'hui on met les bouchées doubles. Pour toutes celles et ceux qui n'étaient pas hier à l'écoute, pour célébrer notre 500e émission depuis le château de Versailles, on a pensé à vous, oui, on vous a ramené du gâteau. Bon, reste maintenant à le couper, pour que vous en ayez, chers auditeurs, chacun un morceau. On va se partager le gâteau, comme nos personnages du jour, qui eux l'ont coupé en deux. Et oui, ils se partagent le gâteau, c'est le thème historiquement vôtre. Cet après-midi a commencé par deux cuisiniers qui ont fait de l'excellence leur marque de fabrique en œuvrant pour les plus grands et dans les lieux les plus prestigieux, Jean-François Potel et Étienne Chabot. Puis aussi marchent par deux et ont associé leur nom à jamais dans l'histoire de la gastronomie, Henri Gault et Christian Millau, qui ont imaginé une nouvelle cuisine et un guide dans lequel les plus grandes tables y sont chaque année recensées. Et après les morts, les vivants, c'est vous Jean-Luc Lemoine qui dresserez vers 17h30 le portrait de notre troisième duo de personnages du jour qui se partagent le gâteau eux aussi.
Oui, le gâteau, les cookies, les mousses au chocolat, les biscuits Perro aussi. Bref, tout ce qui fait plaisir à manger. Je vous raconte un duo devenu une marque, Michel et Augustin.
Eux hésitent encore à commercialiser leurs produits sous la marque Covid. Clémentine, Olivier et David. Bon, c'est peut-être vous un vendeur, mais ça marche. C-O-D-E, c'est pas mal.
Oh, hein. C'est moi qui l'avais trouvé, je vous signale. Hein, vous pourriez rendre à César.
C'est pas César, c'est Clémentine.
Clémentine
Portier-Kaltenbach, vous nous entraînez dans l'intimité des grands de ce monde.
Et ouais. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une aventure, une mésaventure plus exactement, advenue aux Beatles. Alors qu'ils se trouvaient aux Philippines, dirigés depuis un an par Ferdinand Marcos, ils refuse l'invitation d'Imelda Marcos, la première dame, à partager non pas son gâteau, mais son breakfast. Et alors là, vraiment, mal leur en a pris.
Lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, d'une obsession. Souvent la sienne, c'est David Cassel-Lopez.
Oui, aujourd'hui, c'est les notes à l'école.
Ah oui.
Hein, sur 10 en primaire, sur 20 après.
Ouais. Maintenant, il n'y a plus, il y a ABC.
Il y a encore un petit peu.
Ça existait du temps de Charlemagne. Ah, oui. Il remettait un A à l'abbaye de Conques. Je sais qui conserve précieusement. Ah oui.
Bon. Ouais.
Écoutez, nous irons plus clair. Les origines, c'est dans toute fin d'émission, mais juste avant, comme dirait l'autre. Mais aïeux, quelle époque, mais aïeux, quelle époque. Ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte au 12e siècle. On parle cuisine avec vous, Olivier Pouls, c'est d'un ventre. Pas le vôtre, mais le ventre de Paris.
Oui, je vais vous emmener dans ce qui était probablement l'un des endroits les plus extraordinaires du monde. Ça grouillait de partout. Les halles de Paris, les premières halles de Paris.
Mais aïeux, quelle époque, ce sera tout à l'heure, vers 17h40.
Vous avez tout dit, Stéphane ?
Oui.
Mais non, écoutez, il y a bien To Be Alive.
Ah, j'adore cette musique. Je devrais en faire ma sonnerie de téléphone, non ?
Oh bah voilà une belle idée. c'est la musique de Bern To Be Alive, un jeu où Stéphane Bern tente de répondre à des questions d'histoire et où on se rend compte que sans fiche, il connaît pas grand-chose.
Et vous, sans vos fiches. Finalement, je vais pas faire ma sonnerie de téléphone.
Vous avez une voix très sexy, Jean-Luc
Oui, mais c'est ça qui est formidable avec moi, c'est quand je suis malade, je suis sexy. Le reste du temps, je suis un peu pourri.
Bon, je vais mettre finalement mon téléphone sur vibreur, ce sera très bien. Mais pour l'heure, je vous raconte nos premiers personnages du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern.
Ils ont réuni leurs talents sous Louis XVIII et sont toujours présents 2 siècles plus tard, même s'ils ne sont plus vraiment là pour le voir. Ils ont révolutionné l'art du service et le métier du traiteur. Ils ont porté très haut le luxe de la cuisine et du service à la française. Je vous raconte les deux restaurateurs les plus fameux de la restauration, messieurs Potel et Chabot. Nous sommes en 1820 à Paris. Deux hommes exercent leur talent à deux pas l'un de l'autre. Tout jeune encore, Jean-François Potel s'est établi comme pâtissier rôtisseur rue Montmartre, tandis que son aîné, Étienne Chabot, a pris ses quartiers du côté du Palais Royal comme maître de bouche du duc d'Orléans, le futur roi Louis-Philippe. Entre Potel, l'un des artisans les plus prometteurs de la place de Paris, et Chabot, le cuisinier établi, un familier des grands de ce monde, eh bien, le courant passe. et le tandem ouvre bientôt une première boutique, toujours à deux pas du Palais Royal, qui va vite connaître un grand succès. Et pour cause. En ce début du 19e siècle, on ne peut pas se trouver davantage au cœur du Paris gourmand que là, près du Louvre, sous les arcades de l'immense ensemble architectural fondé jadis par le cardinal de Richelieu. C'est là que sont nés les premiers cafés, les premiers restaurants, au dernier temps de l'Ancien Régime. C'est là que l'on se rend pour parier ou discuter de l'actualité. Là encore, qu'on se fournit au tout début de la restauration en fruits, légumes, poissons, viande, pâtés, volailles ou gibier qu'on peut humainement souhaiter, à condition de pouvoir compter sur une certaine aisance financière, bien sûr. Dignes héritiers de leurs augustes prédécesseurs, Potel et Chabot partagent un talent pour la cuisine hors du commun, mais pas seulement. Leur réussite doit aussi beaucoup à leur affabilité, leur bienveillance et un sens d'un service toujours impeccable. Bien vite, les plus fines bouches de Paris se pressent dans la boutique des deux traiteurs dont la clientèle, plutôt prospère, compte rapidement des noms prestigieux à l'image d'Honoré de Balzac, qui les fait apparaître dans ses scènes de la vie parisienne, ou d'Alexandre Dumas, qui leur accordera, lui, une place de choix dans son grand dictionnaire de la cuisine paru en 1873. Le temps passe, les modes aussi, mais l'image de la maison ne fléchit pas, bien au contraire. Au milieu du siècle, la réputation est faite. Dès qu'il s'agit d'assurer un service impeccable et de porter haut les couleurs de la gastronomie française, Potel et Chabot répondent présents. En 1845, le traiteur réalise un premier coup d'éclat en assurant un service de 450 couverts à la bourse pour des convives invités par la chambre de commerce. On ne parle pas encore d'événementiel, mais simplement d'événements. Et celui-ci marque le début de l'âge d'or des grandes réceptions parisiennes, celle où le prestige de la cuisine française vient seconder, discrètement mais efficacement, le travail des financiers, des entrepreneurs, des diplomates et des grands de ce monde. Le sens de la fête, l'art du service, la qualité du banquet, en quelques décennies, Potel et Chabot s'imposent dans la vie parisienne, française et internationale. Lorsqu'il faut organiser l'un des premiers grands dîners d'État en 1848 avec 8500 invités au Champ de Mars, c'est au tandem que la garde rapprochée de Louis-Napoléon Bonaparte, fraîchement élu, fait appel pour ce qui est un authentique tour de force quand on sait ce qu'il faut de travail et d'habileté pour en servir 100 fois moins. Personne ne sait faire aussi bien à Paris, en tout cas pas avec un tel éclat et une telle maîtrise. Et c'est bien cette maîtrise qui fait que le duo est une nouvelle fois sollicité lorsqu'il s'agit de célébrer le baptême du fils de Napoléon III en 1856 ou d'accueillir la reine Victoria 2 ans plus tard. À ce ballet impressionnant et à cette logistique impeccable, Potel et Chabot ajoutent l'excellence d'une cuisine inventive, riche et gourmande. La poularde de luthée, le soufflé de brochet, le bar flambé au fenouil, les lingots au chocolat ou la terrine de foie gras en coque de caramel au poivre font des merveilles. D'autant que Potel et Chabot sont parmi les premiers à comprendre l'importance d'associer la perfection des mets à celle des vins, en faisant appel aux meilleurs caves et meilleurs sommeliers du pays. L'image de la maison est telle qu'elle survit à ses fondateurs. Jean-François Potel et Étienne Chabot avaient eu du flair, leurs héritiers n'en manquent pas. Qu'il s'agisse de s'adapter à l'évolution des goûts de leurs clients ou de répondre au bouleversement de la vie mondaine, le traiteur reste à la pointe, quitte à s'éloigner de son quartier d'origine pour s'installer là où la vie parisienne se déplace au fil du temps. D'abord sur les vibrants grands boulevards, dans un ancien atelier de photographes où la clientèle chic et élégante des jeunes dîne, danse aussi, puis sur les Champs-Élysées où leur immense salle de réception connaît de belles heures au temps des grandes expositions universelles. Plus tard, ce sera l'avenue Victor Hugo ou encore la rue de Chaillot en surplomb de la Seine. La tradition et la modernité ne s'opposent jamais, au contraire. À chaque étape de la construction de la Tour Eiffel, c'est à la prestigieuse maison qu'on fait appel pour les dîners jusqu'à son inauguration en 1889. Et en 1900, Potel et Chabot réussissent ce qui reste sans doute l'un des plus beaux coups d'éclat de l'histoire de la restauration. L'incroyable banquet des maires, 22 500 élus rassemblés sous d'immenses tentes installées dans les jardins des Tuileries. Il y en aura d'autres, comme en 1937 à l'occasion de l'exposition universelle de Paris, lorsque le traiteur sert un repas cuisiné au gaz, une rareté à une époque où tout se fait encore au feu ou au charbon. Et en 1945, dans un Berlin occupé et ravagé par la guerre, c'est grâce à Potel et Chabot que les autorités françaises accueillent les dignitaires alliés, quitte à se servir du pont aérien pour acheminer tout le nécessaire. Un tour de force, encore une fois. 202 ans après l'ouverture de sa première boutique, la maison Potel et Chabot a traversé bien des époques et connu la bagatelle de trois rois, un empereur, quelques dizaines de présidents du Conseil et 25 présidents de la République. Il serait impossible de dresser la liste de tous les grands noms que la maison accueille, de Nicolas II à John Fitzgerald Kennedy, en passant par Nikita Khrouchtchev ou Elisabeth II, de Charles Aznavour à Jean Cocteau. Potel et Chabot a séduit les plus célèbres ou les plus prestigieux. Avec une constance qui force le respect, elle a surtout imposé sa marque de fabrique. Le fait de maîtriser comme aucun autre l'art d'organiser des dîners, des galas ou des réceptions prestigieuses dans les conditions les plus improbables, du sommet du Mont-Saint-Michel jusqu'au désert d'Arabie Saoudite. En 1900, quand un prince de Serbie voulait tâter du luxe à la française, Potel et Chabot inventaient une forme un peu particulière de livraison à domicile en annexant quelques wagons de l'Orient Express pour le satisfaire. Bien plus tard, en 1969, quand la France dévoile le Concorde au Salon du Bourget, le traiteur est encore là. Et depuis 1980, c'est encore lui qui est à l'œuvre à Roland-Garros quand il faut assurer un autre genre de service que ceux qu'on échange sur les cours du plus grand tournoi sur terre battue de la planète. Tout le talent de la maison est d'avoir épousé chaque époque, saisi chaque opportunité. Quand le chemin de fer est arrivé, Potel et Chabot s'est mis à servir à Paris le poisson ou les fruits de mer tout juste pêchés dans les ports de l'Atlantique. Quand l'automobile a pris la place que l'on connaît, le traiteur en a profité pour s'équiper de cuisine mobile et pour livrer des repas entiers à l'autre bout de Paris quelques heures après la commande. Quand le matériel a évolué, Potel et Chabot ont fait évoluer leurs recettes pour proposer des plats toujours plus spectaculaires. Et aujourd'hui encore, comme en 1820, Potel et Chabot, c'est la perspective toujours heureuse d'attendre la réponse à une jolie question. Que va-t-il se passer cette fois? Mais ça, seul l'avenir nous le dira.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Jean-François Potel et Étienne Chabot, avec Clémentine Portier-Kaltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir un historien qu'il connaît bien. Bonjour David Michon.
Bonjour.
David Michon, vous êtes historien spécialiste des patrimoines littéraires et gastronomiques du 19e siècle. Déjà, j'aimerais revenir sur le contexte autour de l'association de Potel et Chabot. Les restaurants et cafés parisiens se développent depuis l'Ancien Régime, avec d'anciens chefs de maisons particulières. Mais concrètement, comment ils se développent? Est-ce qu'ils ont déjà beaucoup en commun avec les cafés et restaurants que l'on connaît aujourd'hui?
Alors, il existe des lieux déjà à l'extérieur pour manger hors de chez soi. Oui, mais en fait, les restaurants prennent un premier essor plutôt à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, notamment parce qu'on a une nouvelle possibilité temporelle, financière, de consommer hors de chez soi, et aussi parce qu'on a des cuisiniers, des cuisinières qui officiaient auparavant auprès de familles aristocratiques, et avec leur évolution, soit ces familles s'exilent, soit ces familles diminuent leur personnel. Donc, les restaurants par rapport à aujourd'hui, alors le décorum est bien différent, on n'a pas des logiques de transparence, de légèreté, on n'a pas vraiment de menu jusqu'à la moitié du 19e siècle. Par contre, si on évoque l'envie de se montrer, de partager, de passer un moment convivial, oui, là, ce sont des caractéristiques intemporelles.
Je parlais des premiers métiers d'Étienne Chabot et de Jean-François Potel. L'un était, Étienne Chabot était maître de bouche avant de s'associer à Jean-François Potel. C'est quoi un maître de bouche? C'est un chef de cuisine?
Oui, un peu. Il officiait pour le duc d'Orléans au Palais Royal, celui qui va devenir le futur roi Louis-Philippe. En fait, il dirige les cuisines. Alors, ça va de l'approvisionnement des vivres jusqu'au rendu final, on va dire, des préparations. Il est un peu chef d'orchestre. Mmh. Il dirige une brigade, comme le dirait Escoffier. Donc, par exemple, des entremétiers, des sauciers, des légumiers, un responsable du garde-manger, etc. Et puis tous les assistants et aides-cuisiniers, aujourd'hui, qu'on appelle commis.
Clémentine ?
Mais ce qu'on comprend dans votre récit, Stéphane, c'est que Potel et Chabot ont été vraiment le traiteur numéro un pendant des années, notamment les traiteurs officiels de l'Élysée. Mais alors, ça veut dire que l'Élysée n'avait pas de chef dédié ? Ils étaient les seuls à travailler pour le palais ?
Ben, disons qu'on avait différents traiteurs parisiens, au 19e siècle, mais il y a eu une concentration une concentration des maisons, parce que c'est ce que se faisaient très bien aussi Potel et Chabot, c'est qu'ils savaient s'entourer. Notamment pour travailler le sucre, ils ont racheté des confiseurs, ils ont racheté aussi à la fin du 19e siècle leur principal concurrent, la Maison Chevet. Donc c'est ça aussi leur force, c'est de ne pas faire eux à deux évidemment, mais de s'entourer des meilleurs. Et des meilleurs pour servir notamment les cours impériales et notamment la France.
David Michon, est-ce qu'on sait comment Potel et Chabot se répartissaient le travail ou se partageaient le gâteau, si je puis dire? Chacun avait ses spécialités et ses compétences?
Alors Jean-François Potel, il est rôtisseur-pâtissier. C'est-à-dire qu'il s'occupe davantage de la confection, de la réalisation des plats, de faire rôtir les volailles, le gibier à pois, la plume, et puis aussi de réaliser des gâteaux sucrés, pâtissier d'aujourd'hui, comme on l'entend, mais aussi un pâtissier, il fait des pâtés de viande, de poisson. Étienne Chabot, lui, il en est capable, mais il est déjà habitué à une forme d'organisation de repas pour plusieurs dizaines de convives. Donc en fait, ils sont complémentaires. Et surtout, ils partagent des envies autour de l'organisation, de la préparation, de la disponibilité, des choix. Donc en fait, ils connaissent un petit peu la mécanique du goût déjà. Et puis, ils savent s'entourer aussi. Et ça, c'est quand même une vraie force qui va faire perdurer cette maison pendant deux siècles.
Potel et Chabot acquièrent une renommée importante dès sa création, à tel point qu'ils semblent aussi inspirer les plus grands écrivains de leur époque. David, en tant que spécialiste des patrimoines littéraires également, est-ce qu'il y a toute une effervescence, un engouement qui se crée autour de la restauration à l'époque, même dans les cercles artistiques et littéraires? On parlait d'Honoré de Balzac ou d'Alexandre Dumas tout à l'heure.
Surtout dans les cercles artistiques et littéraires. Pourquoi ? Parce que les artistes sont un véritable relais de ce qui se passe sur la scène gastronomique. Pour eux, ça participe de leur sociabilité, bien sûr. Et ce repas partagé, pour qu'ils deviennent expérience gastronomique, quand on parle de gastronomie, c'est savoir parler aussi des mets et des vins. Donc, évoquer les conversations à table, c'est ce que vont faire les frères Goncourt. Vous l'avez dit tout à l'heure, Alexandre Dumas qui va partager aussi des menus, et les chroniqueurs mondains dans les journaux. Il y a toute une littérature gastronomique au cœur du 19e siècle qui plaît. Donc, tout ce 19e siècle qui avance, avec des restaurants qui sont accessibles de plus en plus au plus grand nombre, bah finalement, oui, ça devient un loisir assez couru, comme aller au théâtre, à l'opéra, et puis, à la fin du siècle, au cinéma.
Les menus de cette époque sont absolument stupéfiants. Et je crois savoir que Alexandre Dumas organisait, lui, des soupers de 6, 9 ou même 12 heures, où il fallait avoir à la fois de la conversation et de l'estomac. Mais ce qui est très étonnant pour nous, tout de même, c'est les moyens techniques qui accompagnent la réalisation de ces grands buffets. C'est-à-dire, il n'y a pas de camion, il n'y a pas de réfrigérateur, il n'y a pas de gaz. Comment fait-on pour que ça fonctionne? Et la logistique doit être hallucinante. Vous citiez, Stéphane, ce repas des mères de 22 000 personnes, mais c'est sidérant.
Alors, vous l'avez dit, comment faire pour que ça marche? C'est vraiment le leitmotiv de la maison Potel et Chabot. En fait, réussir l'impossible et se dépasser depuis le début, c'est vraiment ce qu'ils tentent de faire, ce qu'ils osent et ce qu'ils font. Alors, c'est quoi peut-être leur premier coup de génie? C'est de miser sur le train, déjà les transports ferroviaires. Ça permet aux Parisiens de manger des poulards de Bresse, de manger surtout des huîtres qui viennent tout droit de Cancale. Donc, on a une organisation au-delà même de « on utilise simplement le train ». Oui, mais eux, ils vont avoir aussi l'idée d'avoir un wagon aménagé pour déjà commencer à préparer des plats. Et puis, toutes ces innovations-là perdurent, puisqu'en 1888, par exemple, ils utilisent le percolateur pour que des centaines et des milliers de personnes puissent avoir leur café chaud, le téléphone, des sorbetières géantes, la voiture aussi en 1900. Et même, ils font faire des voitures spécifiquement pour eux, pour leurs besoins et pour répondre aux besoins des clients.
Potel et Chabot semblent avoir toujours, et vous venez de le rappeler, un temps d'avance d'un point de vue logistique. Il y a eu le gaz, par exemple, qui a fait que ça a accéléré leur mutation, mais aussi gastronomique. Par exemple, les accords mets et vins qu'ils développent. Ça, c'était une véritable innovation.
Alors ça, c'était une innovation parce que le vin n'était pas considéré comme aujourd'hui comme quelque chose où on doit avoir un millésime précis, on doit avoir des crus précis par rapport à un mets. Et donc, eux, ils se disent que c'est tout aussi important. Donc, pourquoi pas, justement, accorder les mets et les vins, puisque ça participe pleinement de l'expérience gastronomique. Ils considèrent que ça fait partie pleinement de l'expérience et de la richesse qu'ils peuvent proposer aux clients.
Clémentine ?
On voit que Potel et Chabot, c'est vraiment la maison de tous les superlatifs, avec des dîners somptueux, un nombre de couverts toujours plus grand, une organisation toujours plus grandiose et justement à la pointe de la technologie. Alors, vous diriez s'il fallait retenir uniquement quelques dîners, Stéphane en a cité quelques-uns, mais à vos yeux, quels sont les plus spectaculaires, ceux qui sont vraiment rentrés dans l'histoire ? On a cité le fameux dîner déjeuner des 22 000 maires et quel autre ?
J'aime bien peut-être deux dîners, celui de 1889, moins connu que les 22 000 maires en 1900. Là, ils étaient que 16 000. C'est déjà pas mal. Mais disons que c'est le premier banquet des maires. Et pourquoi j'aime bien ? Parce que quand la mairie de Paris indique au directeur de la maison Potel et Chabot qu'il y aurait à peu près 16 000 invités, donc déjà du jamais vu, le directeur répond simplement, alors qu'en réalité, il était peut-être un peu inquiet, « C'est bien, le dîner sera servi à l'heure ». En fait, j'aime bien parce que ça montre bien que même s'ils ne savent pas forcément comment ils vont réussir,
oui, parce qu'il faut une batterie de maîtres d'hôtel. Je sais pas combien de maîtres d'hôtel. C'est un maître d'hôtel pour 4 personnes, c'est ça ?
Oui, bah en fonction de ce qu'il y a aussi à faire en salle, concrètement, parce qu'il y a encore des découpes, il y a un vrai travail de salle.
Où sont les cuisines pour le buffet
des
maires ?
Il y a les cuisines, mais c'est aussi
elles sont où ? Sont des cuisines volantes dans les Tuileries ? Parce que quand on pense au nombre de mariages où on a tous été, où on vous sert un petit fagot de haricots avec un petit nœud de lardon et tout ça est tiède...
Clémentine prépare le mariage.
Non, mais pas oui, mais...
Donc, elle est très inquiète
de
savoir comment elle va faire avec ses invités. Mais
justement, dans les années 1970, pour les 2500 ans de l'Iran, l'idée des dignitaires iraniens, c'était de faire un grand repas en plein désert.
Oui, c'est des fameux fêtes de Persépolis.
C'était Potel et Chabot.
Ils ont dû tout inventer. Et
vive la France, hein. Magnifique.
Quand on consulte les archives de Potel et Chabot, très souvent, ils disent, mais comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, notre premier défi, c'est déjà de savoir où on va cuisiner, comment on va cuisiner, parce qu'au mieux, on a parfois un point d'eau et un peu d'électricité au XXe siècle. Mais au XIXe, c'était parfois simplement un point d'eau.
Quel héritage culinaire nous laisse aujourd'hui Potel et Chabot ? Qu'est-ce qu'ils ont... Ils nous ont laissé qu'on peut encore apprécier aujourd'hui.
Bah, peut-être un héritage qui contribue finalement à l'identité française de la cuisine. Déjà une attention toute particulière évidemment à l'assiette. Des grands classiques qu'on connaît encore aujourd'hui, des grands classiques de fête hein, quand même. Le homard, la truffe, le foie gras, peut-être que pendant Noël là ça parle à certains. Des influences étrangères aussi dans la cuisine bien sûr. Mais aussi finalement tout ce qui contribue à magnifier cette assiette-là. Le luxe de la vaisselle. La surprise des mises en scène, l'entrée des maîtres d'hôtel, c'était déjà quelque chose. Le gigantisme quand même des prestations, mais qui est tout le temps au service d'une précision qui est nécessaire aux accords culinaires. Donc je crois que ça, c'est un savoir-faire bicentenaire très apprécié et partout dans le monde.
Et puis, ils nous ont laissé un livre aussi, Une histoire d'émotion depuis 1820 au Cherche Midi. Merci beaucoup, David Michon, d'être venu avec nous sur ces associés qui se sont partagés le gâteau il y a plus de 200 ans pour créer l'une des maisons les plus prestigieuses de la gastronomie française. Et je rappelle votre ouvrage à vous, 24 heures de la vie d'un restaurant, Paris 1867, qui est toujours disponible aux éditions PUF.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Europe 1. Historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz qui est à suivre.
Oui, et comme tous les jours, j'ai un indice musical pour vous mettre sur la piste.
Fais attention au soleil, non ?
Il fait chaud, faire attention au soleil. On va parler de température, mes amis.
Voilà.
De température.
Voilà, vous tirez toujours tout vers le bas.
Et d'unité de mesure.
Quelle déception.
Mais avant cet affrontement, je vais lui laisser la parole parce qu'elle brûle de parler, là, vous l'avez entendu. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Et aujourd'hui, Clémentine, on reste à table avec vous puisque vous nous racontez un dîner organisé par l'épouse du président Marcos, Imelda Marcos, un dîner auquel 4 garçons dans le vent ont été conviés.
Bon, en fait, on est en juillet 66 et les Beatles se trouvent aux Philippines dans le cadre de leur tournée mondiale. Et à ce moment-là, Ferdinand Marcos est au pouvoir depuis novembre précédent, donc quelques mois seulement. Mais enfin, il a déjà trouvé le temps de décréter la loi martiale et d'abolir la Constitution. Et Imelda, son épouse, invite les Beatles à venir partager, non pas un dîner d'ailleurs, Stéphane, mais un petit déjeuner au palais présidentiel de Manille. Bon, elle s'attend évidemment à ce qu'ils acceptent, d'autant que l'organisateur des concerts des Beatles aux Philippines s'est engagé en leur nom, ce que les Beatles ignorent. Alors, les Beatles, eux, demandent à leur manager, Brian Epstein, de décliner poliment l'invitation au nom du groupe. D'abord parce qu'ils ont pour habitude de refuser les invitations officielles et politiques. Ensuite, parce que ce jour-là, ils ont déjà fait une petite balade en yacht en mer et puis ils vont avoir deux concerts, l'un l'après-midi, l'autre le soir. Ils sont épuisés, donc ils n'ont pas trop envie de se lever très, très tôt le lendemain matin pour un breakfast. Alors ces innocents ne se rendent pas compte que l'on ne snobe pas ainsi une première dame toute puissante qui fait déjà l'objet dans son pays d'une véritable adoration, pour ne pas dire vénération, de la part de son entourage et de son peuple. Et puis, Imelda a prévu une grande fête pour les Beatles. Elle a invité 200 personnes. Hein, ça doit être
un gros
breakfast et gros gâteau, sans doute. Et alors, quand elle apprend que les Beatles déclinent son invitation, elle entre dans une colère noire. Ce n'est pas pour rien qu'on la surnomme papillon d'acier ou papillon de fer. Alors, bien sûr, instantanément, toutes les stations de télé et de radio philippines relaient le honteux camouflet que vient d'essuyer leur présidente, avec gros plans sur les assiettes vides, enfants en larmes, voilà, oui, plongés dans la déception de ne pas voir leurs idoles.
D'avoir rien dans les
puis,
assiettes.
Sans doute, oui. Et puis des gros titres tout de suite du type « Ah, les Beatles snobent la First Lady, quelle humiliation !» Et au même moment, comme par magie, le service de sécurité pléthorique qui avait été mis à la disposition des Beatles disparaît. Epstein demande à pouvoir présenter des excuses publiques depuis l'hôtel Manille sur Channel 5. Mais lorsque son interview est sur le point d'être enregistrée et diffusée en direct, la chaîne s'éteint, tout simplement. C'est alors que l'hôtel où séjourne le groupe est attaqué par des fans en colère. Les Beatles et leur entourage doivent quitter les lieux en urgence et se rendre tout aussi urgemment à l'aéroport international de Manille par leurs propres moyens. Au moment où ils quittent leur chambre et longent les couloirs pour sortir de l'hôtel, le personnel s'aligne pour leur faire une haie de déshonneur et les insultes en espagnol et en anglais. Quand ils approchent du terminal, ils ont plus grand mal à parvenir jusqu'à lui parce qu'il y a de petits groupes de manifestants hostiles qui s'en prennent à eux, les bousculent, les agrippent, tentent de les frapper. Les porteurs refusent de prendre leurs bagages. Alors, c'est pas parce que ce sont des ladies, hein, mais c'est pas, ils ont quand même tous leurs instruments. Ils ont des bagages assez volumineux. Eh bien, il n'y a pas de porteurs. Alors bon, et puis, quand ils veulent monter pour arriver jusqu'à la salle d'embarquement, les escalators sont arrêtés. Bon, Evans, qui gère toutes les questions de transport de la tournée, est battu, frappé à coups de pied, ainsi que d'autres membres de l'entourage des chanteurs. Ils se font cracher dessus, les Beatles. Et alors, ils arrivent...
Ça vous met en joie, ça. Hein.
Non, mais il faut imaginer la scène, quand même. Les Beatles, en 66, qui sont là à partir comme des voleurs en se faisant cracher dessus parce qu'ils ont refusé une invitation à un petit déjeuner. Mon cher Jean-Luc, un bon conseil. Si un jour Stéphane vous invite à Thiron-Gardet à venir déguster le célèbre cheesecake dont il tient la recette de sa mère, surtout allez-y. Car sinon, tel le papillon d'acier, Imelda Marcos, il serait bien capable de lâcher sur vous, sans pitié, Scoop et Mirza, ces cruels teckels assoiffés du sang impur de tout chroniqueur récalcitrant.
Faut pas exagérer.
Si, mais moi, ça m'a fait froid dans le dos. Non, je vous imagine tellement.
Merci beaucoup, Clémentine.
Imagine-moi courant avec son cheesecake. C'est ses deux chiens.
En train de me cracher dessus.
Non, je... Mais cela dit, elle avait les moyens des représailles.
Jusqu'à faire arrêter les escalators, c'est magnifique.
Je ne suis pas sûr que vous soyez la bienvenue maintenant aux Philippines, depuis que son cher fils... Le nouveau président
Marcos.
Mais bien
sûr que si, son cher fils a inauguré une ère de démocratie, de transparence et de modération, voilà. qui accepte
trop,
la critique.
N'en faites pas trop.
Bah, c'est vous qui m'avez demandé, faudrait savoir. Oh, le faucheton.
Allez, c'est le moment maintenant de l'émission où vous le sentez bien, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz Burn to be Alive.
Le concept est simple, je pose des questions historiques à Stéphane et Clémentine, l'occasion de vérifier lequel des deux a la plus grande culture en histoire. Et il faut bien l'avouer, les deux concurrents sont bluffants de connaissances historiques, ils ne se trompent qu'une fois sur deux. En même temps, c'est un vrai faux, donc c'est logique. Allez, on va commencer avec vous Stéphane. Pour commencer ce quiz, j'ai envie d'être insolent.
Oui.
Je suis sûr que je vais vous apprendre un mot, rétroacronymie.
Oh bah bien sûr, SOS, Save Our Soul, c'est une rétroacronymie, c'est-à-dire c'est une explication verbale que l'on attribue a posteriori à un acronyme. Voilà.
Bah, si vous voulez, vous faites le quiz à ma place.
Je peux avoir le point, on peut inverser les questions.
C'était pas la question.
Allez-y.
De toute façon, elle ne cherchez pas, vous aurez tout, elle aura toujours raison.
J'ai l'impression que 2023, c'est l'année de la confusion pour Clémentine.
Même quand elle a tort, elle a raison.
Ça s'appelle le brouillard cérébral.
C'est ça, exactement. Voici ma question. Un SPA, c'est un rétroacronyme ou pas? Alors, je vous aide, ça date de 1596.
Je dirais que ça vient de... Oui, c'est pas du tout...
Ça vient de la ville,
c'est
une ville d'eau.
C'est pas SPA. Ça, c'est la Société Protectrice des Animaux. Ça,
vous
c'est...
êtes sûr de vous?
Ah oui, je suis sûr de moi, oui. En revanche, ça vient de SPA.
De SPA, qui est une ville...
Une ville en Belgique.
Mmh. On vérifie ça.
Vous savez... Gagné.
C'est un rétroacronyme. SPA est une ville belge. Joseph II profitait des eaux thermales en 1781. En 1596, le docteur Timothy Bright appelle ce lieu The English Spa. Ça donnera SPA. Une légende urbaine arrivera plus tard. Disons que SPA vient de l'acronyme latin Sana per aquam, la santé par l'eau. Mais non, en fait, c'était bien un rétroacronyme.
C'est bizarre qu'un Anglais ait choisi la ville de SPA alors qu'il y a bien avant, il y avait la ville de Bath. Avec les fameux termes de base.
Bah voilà, mais il faut toujours que les Anglais viennent sur nos plates-bandes. Enfin, il n'en demeure pas moins que ce que je disais était tout à fait exact, c'est-à-dire que SOS, Save Our Soul, Sauver Nos Âmes, c'est en fait une rétro-acronymie, parce que c'est du mort, si vous voulez.
Écoutez,
c'est ça, c'est en ça que c'est une rétro-acronymie.
Essayez de répondre à
bon,
vos questions
écoutez,
déjà.
Allez, donnez-moi votre question.
On va voir si vous êtes aussi brillante là-dessus. Isaac est une figure importante du judaïsme,
oui.
Du christianisme, mais également dans l'islam. Il est le fils de Abraham et Sarah.
Oui.
Isaac signifie « il rira ». Car quand Dieu a dit à ce couple qu'ils allaient avoir un fils, Abraham a rigolé,
oui.
Car ils avaient tous les deux un certain âge.
Oui.
Dans ce couple, qui était le plus vieux, Sarah ou Abraham?
Mais ils n'avaient pas tous les deux le même âge, ils sont tous les deux très vieux. Et...
Est-ce que vous savez à peu près quel âge ils avaient tous les deux?
120 ans.
Ah, je pense que lui avait plus de 100 ans, oui. Bon, alors pour moi, c'est Abraham qui
C'est Abraham, ouais. On vérifie ça.
Vous avez gagné.
C'est Abraham, il avait 100 ans. Sarah, elle, n'en avait que 90.
Ah, bah voilà.
C'est pas moi qui le dis, c'est la Genèse en son chapitre 17, versets 15 et 17. J'aime bien citer mes sources. Une question pour Stéphane Bern.
C'est tout à votre honneur.
Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait parler de chaleur aujourd'hui. Hein ? Alors pour mesurer une température, il nous vient assez rapidement à l'esprit l'échelle du suédois Anders Celsius ou celle de l'allemand Fahrenheit. La première a été appliquée en 1948, la seconde a été imaginée en 1724. Parmi ces autres échelles, laquelle ne sert pas à mesurer une température ? Donc c'est trois propositions, il y en a deux qui servent à mesurer des températures. L'échelle de Romer, l'échelle de Rankine ou l'échelle de Moss.
Je dirais Romer parce que je pense à...
Eric Romer.
Oui, et donc...
Alors, il n'y a pas le H de Eric Romer, c'est R-O-M-E-R.
Bon, allez, je vais dire Rankine.
C'est pas le pivot de Gauss.
Rankine.
Rankine. On vérifie ça.
Vous savez... Perdu.
Désolé. C'était l'échelle de Mohs qui mesure la dureté des minéraux. Elle a été inventée en 1812 par Monsieur Mohs. L'échelle de Rankine date de 1859 et Monsieur Rankine était, d'après vous, il était...
Il était blond.
Non, de nationalité. Il était écossais. Quant à Romer,
voilà.
C'était un Danois, il a proposé son échelle en 1701.
D'accord.
Clémentine peut gagner ce quiz sur cette question. Alors attention, c'est très important. Et je suis bien content que ça tombe pas sur Stéphane.
Sur moi.
Je vous demanderai une chose, Stéphane, sérieusement.
Je t'aime.
Ne l'aidez pas. Vous le savez moins que Stéphane, mais vous le savez quand même. L'abbaye de Thiron-Gardé a en son sein le collège royal fondé en 1629 par Henri de Bourbon-Verneuil. Si vous allez sur collegeroyal.fr, Quel savon n'est pas proposé dans la boutique de Stéphane Bern? Savon nuage d'impératrice, savon chimère cycladique, savon toilette de Vénus.
Oh, moi, je dirais chimère cycladique. C'est pourtant...
Alors, je vous rappelle une chose, c'est que si vous vous trompez, vous risquez de, en riant, vous risquez de vexer Stéphane.
Non. Celui qui me fait vraiment marrer, c'est chimère cycladique. Alors, c'est celui avec lequel, pour ma part, je ferai ma toilette avec grand plaisir.
On vérifie la réponse.
Vous avez...
perdu.
Mais oui.
Vous avez été trouvé avec votre ami Franck Ferrand.
C'est Franck qui a trouvé
oui,
ça
ensemble.
Oh non, les garçons là, vous aviez trop vu là. Vous aviez abusé de la tisane à mon avis.
Il y a des chimères.
Chimère cycladique. Alors, chimère cycladique.
Je précise, la toilette de Vénus, c'est un savon citron verveine voilà. Et la chimère cycladique est au thé vert.
Ah, je vais me le procurer
oui,
sur le.
Bah, 12 euros. Est-ce qu'il y a des frais de livraison, j'imagine?
Oui, mais ça, si vous faites une commande.
Vous pouvez peut-être me l'apporter si en même temps que vos œufs du matin.
Mais si vous faites une commande importante, on vous offre des frais de livraison.
Allez, mettez-moi une palette.
Une palette. Enfin, il vous faudrait.
J'ai pas besoin de ça.
Je sais que vous l'avez beaucoup, mais.
Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes ex-aequo pour l'instant.
On est ex-aequo. Ah bon ah, grâce à ça.
Ah, mais c'est tellement Franck Ferrand.
La question qui va vous départager maintenant, vous la vouliez. On va parler de Wilbur Scoville.
Ah, monsieur Scoville.
Ah, exactement. L'échelle de Scoville, ça. Voilà, là, enfin, on connaît.
Wilbur Scoville est un pharmacien américain. On lui doit l'échelle de Scoville, qui mesure la force des piments, vous l'avez dit. C'est en 1912 que cette graduation est inventée. L'échelle de Scoville va jusqu'à 2 millions d'unités. Le Tabasco, par exemple, c'est 2500. En 2017, c'est Pepper X qui devient officiellement le piment le plus fort de l'histoire des piments. Il est à combien d'unités? Pepper X, et pas PPR.
Vous avez dit que ça allait jusqu'à 20 millions?
2 millions.
2 millions?
15 millions, je dirais.
Je vous dis que ça va jusqu'à 2 millions.
Ah non, c'est pas...
Non, 2 millions.
L'échelle va jusqu'à 2 millions.
Moi, je vais dire 1 897 000.
1 897 000, là, d'un côté.
15 millions.
15 millions. Eh bien, écoutez, c'est Clémentine qui gagne, puisqu'il s'arrête à 3 180 000.
Bah voilà. Occupez-vous moins de savon, un peu plus de piment.
Mettez déjà du piment dans notre vie.
Et une sauce, d'ailleurs, piment. Une sauce a été inventée avec ce piment qui s'appelle The Last Dab.
Ah,
il y a aussi
oui.
du cumin, de la moutarde et de la coriandre pour le goût. C'est une victoire pour la reine des chimères cycladiques.
Je suis bien aise.
Bravo Clémentine.
Bravo.
Europe 1, historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue avec Jean-Luc Lemoine, David Cassel-Lopez, Olivier Pouls et nos personnages du jour qui se partagent le gâteau. Après le duo Jean-François Potel et Étienne Chabot qui ont partagé aussi l'excellence avec leur fameux dîner, je vous raconte Henri Gault et Christian Millau qui, eux, ont tout noté dans leur guide devenu référence d'une cuisine qu'ils ont poussé à renouveler. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter un duo d'amis, devenu une marque aussi, Michel et Augustin.
Oui, deux amis qui se sont dit, tiens, et si on faisait une mousse au chocolat? Et visiblement, ils l'ont bien faite. Et ils l'ont refaite, puis encore refaite, puis encore refaite.
Bon, ils en ont fait quoi de leur mousse?
Bah, ils en ont fait beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein.
Ah oui.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Ils avaient les papilles en folie, la plume aiguisée et un bon coup de fourchette. Ils ont inventé ensemble la nouvelle cuisine à la fin des années 60. Je vous raconte maintenant un duo qui s'est partagé le gâteau et des guides aussi. Henri Gault et Christian Millau. Il suffit de regarder l'une des nombreuses photos qui montrent Henri Gault et Christian Millau à table ou dans une cuisine pour s'en rendre compte. Il y a dans leur regard le même plaisir d'enfant, la même joie qui s'annonce, le même bonheur de sentir s'éveiller les papilles. Les deux hommes aiment manger, c'est une chose, mais ils aiment surtout bien manger. Sur le papier, on ne fait pourtant guère plus dissemblable. Gault et Millau ont des points communs, bien sûr, à commencer par leur année de naissance, 1929. Ils ont tous les deux connu la guerre, les tickets de rationnement et la cuisine des temps difficiles, lorsqu'on trouvait plus de céleri que de bonne viande dans les assiettes. Mais pour le reste, les deux hommes ne se ressemblent guère. Henri Gault est un provocateur né, un faux dilettante, un grand escogriffe qui hésite rarement à sortir des sentiers battus, un baroudeur capable de lâcher ses études de médecine à 20 ans pour un long séjour en Afrique avant de se mêler de journalisme à son retour à Paris. Christian Millau, lui, est plus feutré, plus académique aussi. Travailleur acharné, il cumule Sciences Po, des études de droit et a un goût prononcé pour la littérature, mais attention, pas n'importe laquelle. Ce qui fait vibrer Millau, c'est la désinvolture élégante et les formules assassines des écrivains qui n'aiment rien tant que de se faire des ennemis. L'un de ses premiers postes, Christian Millau l'a d'ailleurs trouvé à Opéra, une revue dirigée par Roger Nimier autour du courant que la critique a baptisé les Hussards, Antoine Blondin, Michel Déon, François Nourricier et quelques autres. Deux choses vont pourtant réunir les deux hommes au milieu des années 50 lorsqu'ils commencent à se croiser dans les couloirs de Paris Presse, le grand concurrent de François. D'abord, ce goût du grand style. Christian Millau est rédacteur en chef, Henri Gau, simple plume, mais quelle plume. Ses chroniques enlevées de la vie parisienne, écrites au gré de ses virées dans la capitale et aux alentours, ne ressemblent à rien d'autre. Gau est un poète capable d'aller chercher du romantisme dans la blanquette concert au bistrot du coin. La cuisine, voilà justement leur deuxième point commun. Les deux journalistes sont des fines gueules et leur goût pour les textes bien troussés les inscrit dans la longue tradition des écrivains gastronomes et jouisseurs d'Alexandre Dumas à Rabelais et de Balzac à Maupassant. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. À partir de 1962, les deux signent chaque vendredi une chronique qui tient à la fois de la flânerie et de la curiosité culinaire. Gau et Millau partagent leurs bonnes et leurs mauvaises adresses avec une franchise et une irrévérence totale. Fatigués d'une critique gastronomique qu'ils jugent trop compassée, trop ronronnante, le tandem a la dent dure et lorsqu'ils s'annoncent à l'entrée de tables nouvelles ou plus ou moins renommées sans jamais se cacher, bien des chefs se mettent à prier pour ne pas décevoir les deux plumes capables d'exécuter un restaurant en deux lignes, comme avec cette critique qui leur vaudra un procès d'ailleurs gagné. Le patron mange ici, dit une pancarte, c'est qu'il possède un estomac galvanisé. On en rit encore aujourd'hui. Au fil des années, leur collaboration s'affine et leur succès est tel que Christian Bourgois, le patron des éditions Julia, décide d'éditer leur meilleure chronique. Ce n'est pas encore le Gau et Millau, mais le guide Julliard fait un tabac. Ce qui aiguise encore l'appétit des deux hommes qui élargissent petit à petit leur territoire. Au prix de quelques dizaines de milliers de kilomètres en voiture, c'est toute la France qui devient leur terrain de jeu. Près de Lyon, les deux compères s'arrêtent chez Paul Bocuse. Encore peu connu, le chef de Collonges au Mont d'Or leur sert une salade de haricots verts à la fois simplissime et délicieuse, aussi fabuleuse que l'escalope de saumon à l'oseille que leur servent les frères Trois Gros à Roanne. De la simplicité, de la fraîcheur, moins de crème, moins de beurre et une cuisine qui échappe à la lourdeur des plats en sauce que les deux critiques gastronomiques ne supportent plus. Voilà leur combat. « Rien ne nous révulse plus », écrit le duo, « que ces gros messieurs apoplectiques attablés pour des repas qui s'éternisent. » Les deux hussards de la gastronomie veulent du neuf, avec raison. Ce goût pour une cuisine plus franche, plus dépouillée, moins apprêtée, colle à l'ère du temps, de la société de consommation et des bienfaits de la modernité et de la nouveauté. Après la nouvelle vague au cinéma et le nouveau roman en littérature, Christian Millau dégaine une formule frappante. Cette gastronomie réinventée, ce sera la nouvelle cuisine. Henri Gau se charge d'en fixer les règles en s'inspirant des 10 commandements. Rien que cela. La nouvelle cuisine, telle qu'il la voit, c'est un temps de cuisson réduit, une carte moins abondante, de nouveaux engins de cuisson et de préparation, moins d'épices, moins de sauces, un soupçon de diététique et j'en passe. En 1969, le duo s'affranchit des éditions Julia pour créer sa propre marque, Gau et Millau, et pas Gau et Millau. D'ailleurs, même si chacun prend vite l'habitude de rajouter le petit mot de liaison entre les deux noms, comme je viens de le faire moi-même. Cette nouvelle étape prend d'abord la forme d'un magazine mensuel. Mais les deux hommes rêvent d'aller taquiner le guide Michelin. 3 ans plus tard, c'est fait. Entouré d'une équipe de fidèles, le duo lance son propre guide avec une couverture aussi jaune que celle de Michelin et rouge. À l'intérieur, pas d'étoiles ou de macarons, mais une note sur 20 et un système de toque. Noir pour les restaurants classiques, rouge pour les fidèles de la nouvelle cuisine. Alain Ducasse, les frères Trois Gros, Paul Bocuse, Alain Chapelle, Joël Robuchon ou Michel Guérard, on n'en finirait pas de recenser les chefs qui ont les honneurs du guide jaune, avec ses critiques parfois flatteuses, parfois impitoyables, mais toujours ciselées. Ces deux fondateurs, d'ailleurs, voient plus loin que l'Hexagone. Pendant 15 ans, Henri Gau et Christian Millau se font les défenseurs inlassables de la nouvelle cuisine autour du monde en organisant des tournées qui portent leurs fruits. Si Paul Bocuse est devenu la star internationale que l'on sait, il le doit en grande partie à Go et Mio, qui touchent à une forme de consécration en 1980, lorsque le magazine américain Time leur consacre sa couverture. À cette date, et même si le guide Michelin reste indétrônable, le Go Mio s'est imposé dans le paysage français. Le tandem finit pourtant par se séparer en 1986, sans qu'on sache vraiment bien pourquoi. Bavards quand il s'agit de cuisine, les deux hommes sont plus taiseux quand on touche à l'intime. La marque poursuit sa vie sans eux et le guide se vend toujours chaque année à 40 000 exemplaires dans une vingtaine de pays, mais l'âme à deux têtes qui en avait fait la saveur n'est plus là. En 2000, Henri Gault meurt à la manière d'un Molière, non pas sur scène mais à table, 17 ans avant Christian Millau. Leur héritage, lui, n'a jamais été aussi vivant. Entre tradition et modernité, la cuisine française n'a sans doute jamais été aussi diverse, inventive et originale qu'aujourd'hui.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Henri Gault et Christian Millau, nous avons le plaisir d'accueillir un critique gastronomique qui les connaît bien. Bonjour Thibaut Denancher.
Bonjour Stéphane.
Vous avez été critique gastronomique pendant plus de 15 ans au Point. Quand on démarre ce métier, Gault et Millau font figure un peu de maître à penser.
C'est un repère dans le métier avec le guide Michelin. D'un côté, le guide rouge avec le guide Michelin. De l'autre côté, le guide jaune avec le Gault et Millau. C'était un guide qui était incarné, en fait. On avait, comme vous l'avez dit, un serpent à deux têtes avec Henri Gault et Christian Millau. Et puis, ils ont vraiment mis au centre la cuisine. Et on les connaissait. On connaissait leur visage. Donc, quand on les voyait débarquer, les restaurateurs ou les chefs pouvaient être inquiets.
Est-ce qu'ils vous ont inspiré quand vous avez commencé dans votre pratique du métier de journaliste gastronomique?
Je crois qu'ils étaient très importants au niveau de l'écriture. Ils avaient de l'esprit, ils avaient un ton acerbe. Et quand on voit les critiques qui sont passées dans le guide jaune, on peut citer Gilles Pudlowski, on peut citer François Simon.
Vous voulez dire qu'ils ont fait école en quelque sorte? Aujourd'hui, on n'écrit plus les critiques gastronomiques comme on le faisait autrefois.
Non, et ils avaient des formules incroyables. Je me rappelle d'une formule, le poisson est mort deux fois. Une première fois en mer, une deuxième fois dans l'assiette. Donc, ils osaient et ils avaient ce ton qui était le leur quand ils pouvaient dire « on ne va pas au restaurant pour manger les rideaux ». Une autre chronique dont je me rappelle, c'était à La Chapelle qui était très connue, qui était à Mionnet. Ils avaient eu cette phrase « gastronome à genoux, Chapelle est une cathédrale ». Donc, on prenait plaisir à lire ce qu'ils écrivaient et on s'installait à table avec eux.
Gault et Millau sont loin d'être les premiers critiques gastronomiques de l'histoire. Pourtant, ils ont marqué l'histoire de la cuisine française. Qu'est-ce qu'ils avaient de plus que les autres, selon vous?
Comme je l'ai dit, ils avaient un ton et un esprit libre. Ils pouvaient dire complètement ce qu'ils pensaient et ils pouvaient aussi bien encenser un restaurant qu'en dire du mal. Ils pouvaient se déjuger. Si une première fois, ils étaient venus que le restaurant n'avait pas plu, ils l'écrivaient et un an après, ils pouvaient écrire le contraire. Donc en fait, ils étaient complètement dans l'air du temps et dans la réalité de ce qui se faisait au moment T.
Mais est-ce qu'ils faisaient et défaisaient les réputations? Est-ce que on pouvait, les clients pouvaient déserter une table s'ils avaient été cruels?
Des points en moins ou des tocs en moins, et c'était des couverts en moins également.
Ah oui. Jean-Luc?
Stéphane l'a rappelé, Gault et Millau instaure les règles en fait, de la nouvelle cuisine. À cette époque, comment on caractérisait cette cuisine française?
Alors en fait, à cette époque, c'était une cuisine qui était riche. C'est une cuisine qui se ressemblait un peu, qui manquait de diversité. C'était la cuisine, comme disait Paul Bocuse, et pourtant il va faire partie cette génération de la nouvelle cuisine. C'était la cuisine à la crème, au beurre, au vin, avec les arêtes et les os. C'était quelque chose de riche. Et eux, en fait, quand ils ont mis en place la nouvelle cuisine et qu'ils ont mis en place les 10 commandements, ils ont eu cette phrase assez incroyable. Le mangeur de 1975 ne peut plus et ne veut plus vivre comme il y a 20 ans, quand il redécouvrait extasié le charme peu discret de la grande bouffe. À présent, il rêve de rester beau et svelte. C'était édicté il y a presque 50 ans et en fait, c'est plus que jamais d'actualité.
Henri Gault instaure donc les commandements de la nouvelle cuisine. Les chefs ont modifié leur cuisine pour espérer entrer dans les critères et être bien notés pour leur plaire. En réalité, comment ils ont réagi?
Alors en fait, je pense qu'il s'est passé, ils ont découvert certains plats chez des grands chefs de l'époque, que pouvaient être Paul Bocuse, Michel Guérard, Alain Chapelle, les frères Troisgros. Et en fait, ils ont mis en place cette nouvelle cuisine en goûtant chez chacun d'entre eux cette nouvelle cuisine. Et d'autres chefs ont suivi derrière. Donc au départ, le chef fait le Gault et Millau, le Gault et Millau fait les chefs. Et puis très vite, eh ben, beaucoup de chefs vont se mettre dans la brèche pour être présents dans cette nouvelle cuisine.
Olivier ?
Oui, on imagine que certains cuisiniers étaient un peu paniqués à l'idée de les voir débarquer dans leur restaurant. Vous, en tant que critique gastronomique, qui connaissez bien tous ces chefs, est-ce qu'on vous a raconté quelques anecdotes croustillantes ?
Jacques Maximin, qui était à l'époque à Nice, m'en a raconté une très croustillante et savoureuse. À l'époque, Henri Gault et Christian Millau étaient venus chez lui. Ils avaient fait un mauvais repas. Ils avaient écrit une critique assassine. Et la fois d'après, vexé, Jacques Maximin en fait, a décidé de ne pas leur annoncer le menu. Il a fait lui-même le menu. Et tout ce qu'il a servi, en fait, ne ressemblait pas aux ingrédients qu'il avait préparés. Et il ne leur a pas dit ce que c'était. Il leur a dit « Maintenant, je vous laisse faire votre critique ». Et quand ils l'ont écrit, en fait, bah, y avait plein d'ingrédients, il y avait des erreurs. Et Jacques Maximin avait vilipendé les deux fanfarons.
Jean-Luc.
Alors, Gault et Millau ont créé un guide après celui de Michelin. Alors, hormis les étoiles pour l'un, les notes et les toques pour l'autre, en quoi les deux guides sont différents et surtout, est-ce qu'ils bénéficient de la même notoriété auprès des chefs du monde entier ?
Alors, ça dépend des pays. En France, le Michelin va être très très fort. Le Gault et Millau va suivre juste derrière. Mais dans des pays comme la Belgique ou la Suisse, le Gault et Millau est plus important que le Michelin. Et au-delà de donner des toques, le Gault et Millau s'est modernisé puisqu'il y a des catégories qui sont apparues. Les grandes demain, donc ça sera les futurs grands chefs. Il y a aussi les 109. Les 109, c'est les jeunes talents de demain. Et ils ont vraiment fait des focus là-dessus. Ils ont fait des focus bien avant d'autres guides sur la pâtisserie, sur la sommellerie, sur le service en salle. Donc ils ont vraiment dissocié ça. Et quelque chose qui est très important de la détoque, c'est que chaque année, il y a un cuisinier de l'année. Et ce n'est pas forcément le cuisinier qui a le plus de toques ou la meilleure note. Parfois, on parie sur l'avenir. Olivier Rollinger l'avait été il y a une trentaine d'années et son fils Hugo l'a été il y a 2 ans.
Olivier ?
Alors, le chef le plus récompensé par le Gault et Millau, c'est Marc Vera, 2 fois 20 sur 20. Il va falloir vous mouiller. C'était justifié ou pas ?
J'étais trop petit pour aller goûter à l'époque.
Il s'en sort bien.
Oui, trêve de plaisanterie. En fait, il a vu 2 fois 20 sur 20 pour son restaurant d'été qui était au bord du lac, à Verrier-du-Lac, qui s'appelait
Celui qui était à Megève en haut.
Et celui qui était à Megève en 2004, je pense que le Gault et Millau a fait un coup. Il fallait miser sur un chef. Marc Vera sortait de l'ordinaire et il avait une cuisine qui était très marquée et ça a fait un coup de publicité extraordinaire pour le Gault et Millau et qui était mondial.
Et pour Marc Vera aussi.
Aussi.
Qui était un personnage avec son chapeau, enfin tout le monde l'a identifié. Le guide Gault et Millau a fêté ses 50 ans en 2022. Quel héritage laisse-t-il pour la nouvelle génération de chefs après Bocuse, Marc Vera ou encore Robuchon, et question subsidiaire, est-ce que la cuisine à la télévision, avec l'émergence de nouvelles stars, que sont Etchebest, Cyril Lignac, etc., a modifié un peu le paysage ?
Alors, pour répondre à la première question, déjà, le Gault et Millau a, entre guillemets, canonisé une partie de ses chefs, puisqu'il a créé l'Académie du Gault et Millau avec 10 chefs qui sont toques d'or, qui avaient 4 et 5 toques depuis plus de 25 ans. Et ils parient surtout sur la jeunesse. Je le disais il y a quelques minutes, ils ont décidé de mettre en place les grands de demain, les 109, qui sont les jeunes talents. Ils parient sur l'avenir. On dit souvent que le Gault et Millau découvre, déniche, et le Michelin avalise derrière. On peut le voir assez régulièrement. Est-ce que la cuisine a été modifiée avec les émissions à la télévision ? Je pense que oui. Ce métier qui était une voie de garage il y a 50 ans, aujourd'hui tous les jeunes en rêvent. Maintenant, il ne faut pas se tromper, il y a une réalité. C'est difficile. Entre la télévision et le terrain, c'est deux choses différentes.
C'est cauchemar en cuisine. Merci beaucoup Thibaut Denanchet d'être venu avec nous sur ce duo de bons vivants qui sont partagés le gâteau et surtout les reines d'un guide légendaire qu'il est toujours aujourd'hui. Merci.
Merci beaucoup.
Europe 1, 16h-18h. Historiquement vôtre.
Stéphane Bern. Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Castel-Lopez et Olivier Poul, sont réunis des personnages qui se partagent le gâteau. Après Jean-François Potel, Étienne Chabot, Henri Gault et Christian Millau, vous nous racontez Jean-Luc le duo qui s'est fait un nom aussi dans la gastronomie, ou plutôt deux prénoms, Michel et Augustin.
Michel et Augustin, partis de rien en 2004, ces deux trublions ont rapidement squatté nos garde-manger grâce à un marketing malin qui consiste à devenir copain avec le consommateur. Et entre potes, on se tutoie et on s'appelle par son prénom. Tu vois ce que je veux dire, mon Stéphane ? Ouais, gros. Vous me dites si je vais trop loin, Votre Altesse.
Non, ça va.
Ça va ? Très bien. Alors, autant Potel et Chabot, ça sonnait copain de régiment, autant Michel Augustin, c'est parfait. Entre modernité et tradition. Je vois pas de meilleur prénom pour une boîte qui fait des biscuits. À part évidemment si tu t'appelles Cookie Dingler.
Mais oui.
Ah, c'est pas mal, oui.
Ah ouais, je vous ai pris par surprise. Hein, oui. Ce portrait, ça va être du gâteau. Grâce à ce marketing...
Il y a Mousse Diouf aussi.
Mousse Diouf. Vous êtes sûr de vous sur ce
coup-là. Mais non, pour la mousse au chocolat.
C'est vrai, c'est vrai.
Oui, ah bah. Oui, mais là, on est plus sur, les, sur du biscuit. Hein.
Oui, on est.
On est plus sur du biscuit.
C'est un peu plus mou. Quoi.
Mousse Diouf. C'est ça, exactement.
Mousse Diouf.
Grâce à ce marketing, Michel Augustin regardise BN, relègue Mamie Nova et Papy Brossard à l'EHPAD et réussissent à remplacer les princes dans le 4 heures de mon poteau Stéphane Bern. Bel exploit. Michel Augustin partage le gâteau, mais pas avec la concurrence. C'est parti pour un portrait 100% business.
Bonsoir et bienvenue dans Capital, le magazine qui décrypte l'économie qui vous touche.
Moi-même, je dois vous avouer aujourd'hui avoir été touché par Michel Augustin. Enfin, pas dans un sens sexuel, hein, ils m'ont chatouillé que les papilles. Mais ils ont su toucher mon âme. Leur histoire est émouvante et quand je vous l'aurai racontée, vous aussi, vous aurez le cœur tout émietté. Tout commence pourtant plutôt bien en 1989 par leur rencontre au collège jésuite Saint-Louis de Gonzague à Paris. Dans cet établissement catholique d'élite, ce n'est pas des gâteaux que l'on produit. C'est pas non plus du fromage, ce sont des hommes que l'on façonne. Et au contact des religieuses, Michel et Augustin attrapent un virus. Est-ce que vous devinez lequel ?
La foi ?
Non, les pâtisseries, la cuisine.
La pâtisserie, les cuisines, oui. Eh ben pas du tout.
Non.
Non, c'est...
J'étais content de moi.
Le virus de la générosité, mes amis.
Ah, le virus de la générosité.
C'est beau, non ?
Ah oui.
Dès le lycée, ils font des missions humanitaires en Afrique et en Amérique du Sud. Augustin Paluel-Marmont et Michel de Rovira sont de bonnes pattes. Deux hommes au cœur fondant. Leur personnalité est un cookie. Ils partagent tout. 50-50. On n'avait pas connu une aussi belle histoire d'amitié depuis...
Est-ce que tu viens pour les vacances ? Moi, je n'ai pas changé d'adresse.
Changement d'adresse, justement. Nous voilà à l'ESCP, Subdeco Paris, où ils poursuivent leurs études. Mais en 2004, ils larguent leur job de consultant pour publier le guide des meilleures boulangeries de Paris. Ça se vend comme des petits pains et ça leur permet de comprendre quelque chose 10 ans avant tout le monde. Les Français veulent des ingrédients de qualité dans leur goûter. Et ça va devenir l'engagement de Michel Augustin. Par exemple, le beurre de leur gâteau a un point commun avec Ségolène Royal. Devinez lequel ?
Il est du Poitou.
Bravo, bravo. Il est 100% Poitou-Charentes. Stéphane qui a répondu, allez en matière grise, vous sortez.
Non, parce que je dirais pas ça de Ségolène Royal.
Vous diriez quoi alors ?
Non, qu'elle n'est pas allégée en matière grise, elle a ce qu'il faut.
D'accord, tout à fait. La recette fonctionne. C'est parti pour 10 ans d'expansion. Quand ils étaient jeunes, ils avaient construit un dispensaire au Burkina Faso. Mais là, ce sont des cabinets dentaires qu'il faudrait construire en France. Tellement leurs noms sont sur toutes les lèvres et leurs friandises dans toutes les bouches.
C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim.
Heureusement qu'il y a les brosses à dents, sinon Michel et Augustin auraient été rebaptisés Chico et les Biscuit Kings. Chico et les Biscuit Kings, un jeu de mots peut-être lamentable, ok, on est d'accord, mais bien dans l'esprit potage de Michel et Augustin, qui furent les premiers en France à mettre de l'humour sur leur packaging. Tout le monde les a imités depuis. Plus possible de faire ses courses sans lire des kilomètres de blagues carambars. À cause d'eux, c'est devenu un peu pénible, faut être honnête, de pousser son caddie dans les rayons des supermarchés. Mais on peut pas enlever à Michel Augustin d'avoir été les pionniers de cette tendance. Leur emballage cartonne, leur carton nous emballe. Et en 2015, s'ils font toujours 50-50, ils font surtout 50 millions de chiffres d'affaires.
Wow. C'est énorme.
Ah oui, c'est énorme. Plus on les dévore, plus ce sont eux qui grossissent. À tel point qu'ils vont tenter de faire comme dans la série Friends, ou comme leur idole, Ben & Jerry's, squatter tous les cafés d'Amérique.
L'Amérique, je veux la voir et je l'aurai.
Alors, sur le papier, vouloir vendre des cookies aux Américains, c'est comme le gardien de l'Argentine. C'est complètement con, hein. Pourtant, Michel Augustin décroche un gros contrat et trempe leurs biscuits dans des milliers de Starbucks. Ça mérite une Marseillaise.
Le jour de gloire est arrivé.
Vous l'avez reconnu ? Stéphane ?
Ah mais oui !
C'est qui chante ?
Mais oui !
C'est Mireille Mathieu.
Oui. C'est Mireille Mathieu qui a un point commun avec Michel Augustin.
Ben ils ont deux, Mireille et Mathieu, c'est deux prénoms.
Exactement, mais oh là là, il a un collab s'il était aussi bon au quiz. Revenons à nos deux trublions qui prennent un peu trop la confiance. Car en 2016... Alors qu'ils font les gâteaux les plus cool du monde, ils appellent à voter à la présidentielle pour François Fillon. Aïe, aïe, ça c'est...
Ça c'est pas bobo ça.
Non, c'est comme le grain de sel de Guérande dans le cookie caramel. Ça fait chic, mais ça crisse un peu sous la dent de ceux qui n'apprécient pas ce mélange sucré-salé de marketing lol et de libéralisme économique. Un malheur d'arriver en jamais seul aux States Michel Augustin se font alors virer de chez Starbucks, comme deux vulgaires squatteurs de Wi-Fi. Sous pression, ils se vendent à une multinationale. Eux qui étaient 100% des connes deviennent 100% Danone. Leur marque était super sympa, elle devient l'objet de moqueries, notamment par les humoristes du Palma Show. Merci qui ?
Merci Jackie et Michel et Augustin !
Et en 2020, ils doivent carrément quitter l'entreprise en laissant leur propre prénom à la disposition des nouveaux proprios. C'est un peu triste et ça mérite un très grand coup de chapeau. Bravo à vous, Laurent et Pierrick. J'espère que vous kiffez vos nouveaux prénoms achetés sur le Bon Coin.
Oui, en même temps, ils ont dû leur laisser pour un petit paquet d'argent. Oui. Moi, je veux bien arrêter de m'appeler Olivier pour le même montant.
Et si on choisit le prénom pour vous ?
Mais ils ont vendu leur âme au diable.
Dick Pouls.
À un moment, ils ont été obligés de vendre. Oui. Et puis, ils ont bien vendu.
Oui. Voilà. C'est du marketing, au fond.
Oui, mais ils ont eu quelques petites déconvenues à un moment. Et puis voilà. Après, ils ont lâché l'affaire, quoi.
En tout cas, merci pour ce portrait.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui se partagent le gâteau pour retrouver deux garçons qui préfèrent se partager un verre de viandox.
Oui.
David Castel-Lopez, vous nous racontez les origines des notes qu'on reçoit à l'école, enfin qu'on recevait plutôt à l'école.
Exactement, on les reçoit encore.
Il y en a encore. Mais avant cela, comme chaque jour, mes aïeux, quelle époque. Aujourd'hui, on reste dans la gastronomie avec vous, Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Alors, ça s'est passé dans le passé. On remonte au XIIe siècle pour découvrir ce qu'on appelle alors le ventre de Paris.
Oui, en cette année 1110, Paris, vous l'imaginez bien, est loin de faire sa taille actuelle. Au nord de la ville, dans une zone qu'on pourrait aujourd'hui situer autour de la rue des Petits Champs, se trouve une vaste zone marécageuse. Et c'est là que le roi Louis VI, le Gros, décide d'implanter le nouveau Grand Marché de Paris, car celui situé place de la Grève, à l'emplacement de l'actuel Hôtel de Ville, est devenu trop exigu. Il fait assécher les marais et en 1135 ouvre le plus grand centre d'échange de marchandises de la ville. Alors il faut imaginer un vaste espace à ciel ouvert, en terre battue, où les guildes, c'est-à-dire les corporations à l'époque, de marchands viennent proposer leurs produits. Alors ici des vaches, des volailles, des légumes, des fromages, des céréales, du vin, du poisson. Tous ces produits proviennent de la campagne environnante ou d'un petit peu plus loin et viennent nourrir les Parisiens.
Et ces halles de Paris vont subir de nombreuses transformations, Olivier.
Et oui, durant 8 siècles, tous les rois, les empereurs et dirigeants n'auront de cesse d'apporter leur touche à ce ventre de Paris. Alors Philippe Auguste puis Saint-Louis vont faire bâtir les premières structures en dur, à l'époque en bois. Louis XVI va édifier une nouvelle halle au blé, puis un espace dédié aux fleurs. Henri III fait édifier une place centrale bordée de maisons et de galeries marchandes. Alors il faut imaginer, un silhouette absolument incroyable, il y règne une atmosphère unique. Qu'Émile Zola, vous l'avez dit, décrit à merveille dans son roman « Le ventre de Paris ». Les ruelles grouillent de gens de toutes catégories. Les lieux attirent commerçants, acheteurs, riches et pauvres, mais aussi des brigands qui s'en donnent à cœur joie. C'est à la fois insalubre et dangereux. Alors, contenu entre les rues de la Ferronnerie à l'ouest, Saint-Denis à l'est, la Tonnellerie au sud et la Grande Truanderie au nord, les halles de Paris doivent être repensées. Napoléon a bien un projet, mais il n'arrivera pas à le mettre en place.
Oui, mais c'est un autre Napoléon, le grand ou le petit, selon en tout cas son neveu, oui. Qui va s'y atteler.
Louis-Napoléon, le grand, Napoléon III, qui demande au préfet Rambuteau de charger l'architecte Victor Baltard d'élaborer un nouveau projet. Alors il en propose plusieurs et c'est finalement une immense structure métallique que Louis-Napoléon va retenir. 12 pavillons doivent être construits, seuls 10 le seront au final, durant plus de 15 années de travaux titanesques. Comme c'est le cas depuis le XVIe siècle, chaque pavillon accueille des marchands regroupés par famille de produits, volailles, viande, beurre et œufs, fromage, poisson. Mais on y trouve aussi des restaurants et des boutiques qui font de ces halles une ville dans la ville. Cette nouvelle architecture, cette organisation remarquable, montre toutefois rapidement ses limites. Paris ne cesse d'accueillir de nouveaux habitants, il y a de plus en plus de bouches à nourrir. Les restaurants se développent, les halles sont au bord de l'asphyxie, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et le 14 mars 1960, le Conseil de Paris décide le déménagement.
Oh, ça ne se fera pas immédiatement.
Ben non, d'autant que deux sites sont retenus. C'est tellement grand qu'il faut partager, évidemment, tous ces produits. Rungis et la Villette. Le déménagement du siècle, comme on l'appelle, et qui concerne 20 000 personnes, 1000 entreprises, commence en février 1969. Le nouveau marché d'intérêt national ouvre ses portes le 4 mars à Rungis. Quant aux anciennes halles, elles ont trouvé de nouveaux locataires, figurez-vous, les rats, qui envahissent les lieux à la recherche de nourriture, si bien que 150 techniciens sont mobilisés pour déverser des tonnes de nourriture empoisonnée qui vont tuer 20 000 rats. Les halles seront ensuite détruites pour laisser place à un vaste projet de RER et de galeries marchandes qu'on a connu bien sûr. Seul un pavillon Baltard, le numéro 8, a été sauvé. Il a été reconstruit à Nogent-sur-Marne, où on peut encore le voir. Et puis quant au marché international, il est à Rungis. Et je ne saurais trop vous recommander, car on ne le sait pas forcément, mais d'aller le visiter. On peut y accéder. Il y a une barrière à l'entrée, on paye quelques euros et on peut visiter ce qui est une ville absolument incroyable avec tous ses pavillons, tous ses marchands. Une ville qui grouille la nuit. Il faut y aller entre 2h et 6h du matin. C'est là que s'opèrent les transactions. On ne peut pas acheter parce qu'il faut une carte spécifique. Il faut être un professionnel pour acheter.
Vous avez le droit ou pas?
Non, parce que je ne suis pas restaurateur, je n'ai pas de commerce. Il faut vraiment être dans le commerce de la nourriture. Et puis surtout, on n'achète pas au détail. C'est-à-dire que si vous voulez acheter des mandarines, vous allez acheter 20 kilos de mandarines, pas 200 grammes. Donc,
oui, il faut y aller entre 2 et 6 heures du matin.
Alors le poisson, c'est le plus tôt. Ça commence à 2 heures, c'est fini à 4 heures. Les transactions se terminent. Et ensuite, tout au long de la journée, il y a encore quelques pavillons qui restent ouverts, comme les fleurs par exemple. Mais le gros, en fait, à 6 heures du matin, c'est fini. Et donc à 6 heures du matin, ben on va dans l'un des nombreux restaurants du marché de Rungis, manger une petite andouillette avec des frites et un coup de Beaujolais, et la journée peut commencer.
Merci beaucoup, Olivier. quelle époque, mes aïeux.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls, mais surtout avec vous, David Cassel-Lopez.
Oui. Je ne sais pas si c'était comme ça pour vous quand vous étiez enfant, mais moi, à la fin de chaque trimestre à l'école primaire, il y avait une cérémonie qui était d'une très très grande cruauté. Il y avait le directeur de l'école, il s'appelait Monsieur Casgrain, le mien. Oui, il entrait dans la classe et il remettait les bulletins de notes du trimestre à chaque élève en disant leur nom à haute voix, dans une sorte de mise en scène terrible de la hiérarchie du mérite et des intelligences. Il commençait par les meilleurs, et puis il descendait. Les meilleurs, c'était toujours les mêmes, hein, ça se jouait toujours entre Eva Kukab, Pauline Frachon, Gaël Robert et éventuellement Anne-Laure Afonso un certain trimestre. Et ensuite, tout était possible. Une fois, moi, au premier trimestre de mon CM1, j'ai été dans le peloton de tête, hein, dans le bas du peloton de tête, avec, je m'en souviens encore, la moyenne de 8,61 sur 10. Mais sinon, à part ce moment-là, j'ai toujours été moyen plus. Évaluation qui, je pense, me caractérise encore aujourd'hui. Il est comment, David ? Physiquement, bon, moyen plus, mais de plus en plus moyen. Intellectuellement, pareil. Et en connaissance du nazisme, bon là, peut-être un petit peu plus au top que moyen plus. Et ça, ça me donne envie, bien sûr, d'abord de savoir... Vous étiez où, à l'école ?
Moyen.
Moyen ? L'école primaire ?
Oui, moyen plus. Moyen plus. Mieux faire. Et surtout très indiscipliné.
Très indiscipliné.
Et à l'époque, ça pardonnait pas. Vous savez, les années 70.
On vous tapait un petit peu sur les doigts.
Et puis je faisais des pâtés avec. Parce qu'on avait des plumes sergent-major et blancs.
Ah oui, c'était la fin des. Et donc vous faisiez des pâtés et vous ratiez en fait. Vous n'étiez pas très fort.
Les pâtés n'étaient pas très.
Et vous, Jean-Luc ?
Écoutez, non, l'école primaire, ça s'est plutôt très très bien passé.
Ouais.
C'est après que c'était le toboggan. Après, j'ai glissé.
Et vous ?
Pareil, j'ai bien commencé l'école primaire, ce qui faisait la fierté de mes parents. Et au plus on avançait, au plus je m'enfonçais. Heureusement qu'il n'y en avait pas encore 3 ou 4 derrière. Je pense qu'ils ne seraient pas
arrivés. Je vais vous dire, moi j'avais des résultats qui faisaient que même au bout d'un moment, les gens ne vous aiment plus.
Ah oui, parce que vous étiez tellement fort.
En tout cas, j'étais plutôt bien classé à chaque fois. Au bout d'un moment, les gens sont contents pour toi, puis la fois suivante un peu moins, puis la
après,
fois suivante
ils s'en foutent.
Oui, moi, j'étais tétanisé à l'idée de ramener mon bulletin à la maison, quoi.
Oui, voilà. Bon, tout ça, c'est
que de souvenirs.
Que de souvenirs. En tout cas, c'était Jean-Luc le meilleur d'entre nous. Le truc, c'est que ces notes qu'on donne à l'école, elles n'ont pas toujours existé. Est-ce que vous savez
qui sont les précurseurs des notes à l'école.
Ça doit être les hussards noirs de la République.
C'était avant ça.
C'était même avant ça.
C'était les jésuites.
Ah, les jésuites.
On a parlé des jésuites tout à l'heure. Vous connaissez les jésuites?
Un petit peu.
C'est des gens assez austères, on pourrait dire, mais quand même assez forts en pédagogie. En gros, les jésuites, ils ont inventé, mais presque tout ce qu'il y a en matière d'école aujourd'hui, non seulement en France, mais aussi en Europe. L'une des bases de l'enseignement jésuite, c'était l'émulation. Il fallait que les élèves, ils aient envie d'être meilleurs que les autres. Et donc, ils ont mis en place les jésuites. Donc, il y a quand même très longtemps, parce que les jésuites, ça date du XVIe siècle. Donc, c'est vers cette époque-là. Ils ont mis en place un système assez étonnant de compétition permanente entre les élèves. Système qui reprenait des catégories issues de l'histoire romaine. Les élèves, ils étaient divisés en groupes. Les Romains contre les Carthaginois. Et dans chaque groupe, chaque élève, il avait un poste précis et il était en compétition directe avec son homologue du groupe d'en face. Le meilleur de chaque groupe, il recevait le titre d'empereur. Et il y avait aussi d'autres titres pour les autres bons élèves, genre décurion, tribun, sénateur. Et à la fin de l'année, les élèves, ils étaient classés. Et c'est ça qui est l'ancêtre des notes qu'on a eues après. Ils étaient classés en trois groupes. Les optimi, le top, qui était admis à passer en classe supérieure. Les dubii, qui étaient un peu dans une sorte de purgatoire. Genre, ils pouvaient monter dans la classe supérieure, mais s'ils ne faisaient pas leur preuve, bam, ils redescendaient. Et enfin, les inepties, qui étaient considérés comme irrécupérables et que les parents étaient invités à venir chercher pour qu'ils cessent de contaminer l'excellence avec leur nullité de gens tout pourris. Et ces classements jésuites, je vous l'ai dit, ils ont probablement influencé la suite de l'histoire en termes de notation. Au début du 19e siècle, par exemple, quand vous passiez le bac en France, vous étiez jugé par un jury de plusieurs personnes qui votaient, et ils votaient avec des boules de couleur. Rouge, avis favorable, blanc, le membre du jury s'abstenait, et noir, avis défavorable, comme dans Motus un petit peu, si je me souviens bien. C'est plus tout à fait frère, mon émoi.
Comme au Jockey Club, et là, vous étiez blackboulé.
Blackboulé.
D'où l'expression blackboulé.
Motus, oui, avec une boule noire, on perd son tour.
On perd son tour, exactement. Donc la boule noire, exactement. Mais là, vous étiez recalé au bac. Les notes chiffrées, à proprement parler, elles sont arrivées progressivement dans le courant du 19e siècle. D'abord, pour noter les étudiants qui passaient le concours de polytechnique, de façon à ce que ce soit un petit peu plus transparent et un petit peu moins subjectif. Il y a un historien français très bien qui s'appelle Bruno Bellost et qui explique qu'on est passé à ce moment-là d'un régime de la sentence, genre t'es reçu ou t'es recalé, à un régime de la mesure dans lequel il y a des critères d'évaluation précis. Mais c'est que à la toute fin du 19e siècle, sous la Troisième République, l'époque des hussards noirs que vous évoquiez, Stéphane, que les notes se sont généralisées partout. Notes sur 10 en primaire, notes sur 20 après la primaire. Pourquoi 10 et 20? Eh bien, personne ne sait, même les historiens de l'école en France, ils n'ont aucune idée de pourquoi 10 ou 20. Mais vous le savez, les notes sont de plus en plus critiquées. Elles ont même été supprimées dans certains endroits parce que certains considèrent que c'est violent de classer les enfants avec des chiffres et que ça peut les rendre vraiment tristes. Alors pour moi qui suis moyen plus, ou pour vous Jean-Luc, qui êtes vraiment au top.
Non, quand j'étais en primaire, ça s'est beaucoup dégradé depuis.
C'était pas si grave, mais pour les mauvais, vous étiez moyen aussi. Mais pour les mauvais, on comprend que ça soit assez désagréable. Hein. Quand on vous appelle votre nom et qu'on vous dit maintenant, voilà, toi t'es nul, t'as deux, c'est pas très
et
sympa.
Vous en pensez quoi de l'abandon des notes?
Moi, je suis plutôt pour les notes. Hein.
Je trouvais... propose qu'on note votre chronique.
Non, mais parce que
moi, je vais lui mettre 15.
Parce que nous, on le sait, bien, dans la vie, on est toujours noté à un moment ou à un autre.
Mais oui, il y a un petit peu un truc hypocrite à dire c'est...
Il ne faut pas traumatiser les enfants, mais ils vont l'être beaucoup plus par la vie
professionnelle. Ouais, avec les réseaux sociaux, quand avec les likes, c'est une forme de note.
Exactement. Hein. Exactement.
Donc on est noté toute sa vie.
Non, mais il y avait ce truc quand, au lycée, j'étais au lycée, vous le savez, avec le ministre des Transports qui s'appelle Clément Beaune, et on rendait effectivement à l'époque les copies de la moins bonne à la meilleure, et vraiment,
systématiquement.
Il était dans les bonnes notes.
Il était dans le bas, soit premier, soit deuxième. Il y avait un type qui était encore plus fort.
Mais regardez, vous avez mieux réussi que lui.
C'est ça.
On peut pas tout à fait dire ça.
Merci David. Oui, on retrouve Les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Voilà, Historiquement Vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain, dès 16h, avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages. Trois dames qui ont fait des contes de fées. Madame d'Aulnoy, la comtesse la plus publiée du règne de Louis XIV, puis George Sand, et oui, George Sand qui s'est tourné vers le conte à la fin de sa vie. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez une conteuse, chanteuse surtout, c'est comme ça qu'elle est connue.
Oui, elle-même s'est réchappée d'un conte. Je vous raconte Mylène Farmer qui en a écrit des contes pour grands, je précise. Et bon, vous l'avez dit, elle chante aussi beaucoup.
Ah tiens, hâte de découvrir tout ça demain. À demain les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.